Franche culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche culture sur Radio Campus. Au menu, tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus, si affinité. Au micro, nous sommes 7, 7 chroniqueurs à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation est la curiosité. Autour de la table avec moi, Isabelle, Bénédicte et Dominique, et un invité. Aujourd'hui, on va dire des gros mots avec Bénédicte. Isabelle nous présente son coup de cœur littéraire. On va s'intéresser pour finir aux urban sketchers. Mais pour commencer, on va sur les traces de l'Anjou antique avec Dominique Latron et son invité Emmanuel Litou.
Le patriarche du patrimoine.
Dominique, aujourd'hui nous parlons archéologie. À l'occasion de l'exposition aux archives départementales, rue de Frémur à Angers, exposition dénommée « Sur les traces de l'Anjou antique », elle se tient jusqu'au 11 mars prochain.
Et oui, bien sûr, car sur le territoire de l'Anjou, l'occupation humaine est attestée de très longue date, notamment par la présence encore très visible des dolmens et menhirs, principalement auprès de la Loire ou de ses affluents, du fait bien sûr de la facilité des échanges le long des fleuves. C'est l'arrivée des Celtes plusieurs siècles avant Jésus-Christ qui imprime sa marque à l'Anjou antique. Cette tribu est appelée les Andes par César, qui cite plusieurs fois ce nom dans « La guerre des Gaules ». Après le temps de cette conquête par les Romains, c'est le temps de la paix et de la reconstruction de la cité des Andécaves. Enfin, au IIIe siècle, la cité se replie derrière une enceinte protectrice. Et le but de l'exposition est bien de nous inviter à découvrir cette capitale gallo-romaine et à s'émerveiller devant les nombreux sites de fouilles du territoire. Il faut dire que cette capitale est au carrefour des voies antiques Paris-Rennes, Nantes-Lyon, elle se dote donc d'édifices publics, forums, amphithéâtres et thermes. Et depuis 1850, ils sont lentement et partiellement mis à jour par de grands archéologues, Godard Fautrier, Célestin Port, pour ne citer que les plus anciens, et surtout ceux qui ont donné leur nom à des rues d'Angers. Et nous accueillons, pour entrer dans le détail de ces fouilles, Emmanuel Litou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, responsable du pôle archéologie au Conseil départemental de Maine-et-Loire. Alors, quelques mots très simples sur les principaux sites présentés dans l'exposition. Et à commencer par le plus ancien d'entre eux, il est fouillé dès le début du 19e siècle. On est à la confluence de la Loire et de la Maine, sur le site des châteliers de Saumur, de Frémur, pardon, au lieu dit Empiré. C'est d'ailleurs le fond de l'affiche de l'exposition.
Tout à fait. Il y a une très très belle image qui a été dessinée lors des fouilles des années 1870 qui ont permis de mettre en évidence un ensemble thermal qui était associé également à un édifice de spectacle, un théâtre, qui a bénéficié d'une opération archéologique en 2012 dont on a pu préciser le plan. Et donc c'est un site assez complexe qui était à l'extérieur de la ville antique et qui avait certainement une vocation cultuelle. Donc il devait y avoir un temple associé à cet ensemble de bâtiments, mais malheureusement qui n'a pas encore été découvert, mais il faut en laisser pour...
Et on est sur le versant sud qui va vers la Loire. C'est pour favoriser la bonne exposition et pour se prémunir des vents du nord, j'imagine.
Alors, il y avait différents paramètres. Il y avait aussi le fait qu'il y ait un petit relief qui a facilité l'installation de l'édifice de spectacle pour les gradins. Et puis il y avait évidemment une voie de circulation importante à proximité.
Et c'est un site qui est complètement enseveli aujourd'hui. Les fouilles ont été réalisées, il est comblé.
C'est ça. Alors il y a eu différentes phases de terrassement. Il a été protégé en 1975 pour monument historique pour éviter que les vestiges ne soient détruits à l'occasion de travaux. Donc maintenant il est sous les champs, sous la terre.
Très bien. Parlons un peu maintenant place du ralliement devant le théâtre. Il y a eu d'importantes fouilles dès la fin du 19e siècle. Il y a une très belle photo qui montre le théâtre fraîchement construit. Il est rutilant et au pied, on voit des maçonneries gallo-romaines apparaître sous le sol de la place.
Voilà, alors c'est vraiment les travaux qui ont donné à la place du ralliement la configuration qu'on lui connaît aujourd'hui, avec la construction du théâtre et puis des immeubles qui bordent la place. Donc dans les années 1870, c'est à cette occasion qu'ont été découverts alors notamment des vestiges antiques. On a trouvé des thermes, on a trouvé une très très belle mosaïque qui est conservée maintenant dans les réserves du musée.
Oui.
Et puis des bâtiments d'habitation, de l'artisanat, de la ville antique. Puis après, tout ça a été surmonté par des églises du Haut Moyen-Âge et puis une nécropole. Donc il y a tout un ensemble archéologique assez riche.
Et je crois qu'il y a eu un complément de fouilles, notamment en haut de la place, au moment de la création du parking, il y a une trentaine, quarantaine d'années ?
Une cinquantaine d'années. Le temps passe vite. En 1971, lorsque le parking souterrain a été réalisé, c'est Jean Siraudot, à l'époque, qui était archéologue, qui a fouillé...
Moi, je me souviens avoir vu sous la marche d'entrée de la pharmacie, à peu près une trentaine de centimètres sous le sol naturel, des sarcophages. Des millions de gens sont passés là sans imaginer qu'un jour, on trouverait à cet endroit des objets aussi intéressants.
Oui, ça, c'était en 2010, donc dans la phase de travaux en amont du tramway. Effectivement, il y a eu une dernière opération archéologique qui a permis de retrouver les vestiges de l'église Saint-Maurille.
Alors, passons en place de la République, devant le palais de justice. Là, on a trouvé également un établissement thermal.
Place de la République, alors pas en face du palais de justice, sous le centre commercial Fleur d'Eau.
Oui.
Effectivement, avant le Fleur d'Eau, pour les Angevins qui sont un peu plus âgés, avant il y avait les halles d'Angers qui ont été construites au début des années 80. Et effectivement, avant la construction des halles, l'archéologie a permis de mettre en évidence les restes d'un très très gros complexe thermal, c'est-à-dire un établissement de bain en fait, du Haut Empire, extrêmement bien conservé.
D'accord. Il y a eu aussi d'importants fouilles archéologiques. Place Kennedy devant le château. Ça, c'était au début du 20e siècle, les années 1920, je crois.
Oui.
Ça a permis de mettre à jour cette enceinte dans laquelle s'était recroquevillée la ville à la fin du 3e siècle.
C'est exactement ça. Dans l'exposition, il y a une très belle photo de 1922 où on voit en fait qui est prise du château et on voit des tranchées qui ont été ouvertes et on voit une tour de cette enceinte. On voit la courtine et effectivement, donc c'est une enceinte qui délimitait un espace à peu près entre la cathédrale et le château d'environ 9 hectares. Et c'est la ville qui se resserre dans un contexte un petit peu difficile. Il faut se protéger et on édifie cette enceinte.
Alors ce mur d'enceinte, on le retrouve bien sûr tout le long de la rue Toussaint.
Voilà, c'est là où il est le plus visible.
Et puis on le retrouve aussi du côté de la cathédrale. On le retrouve la grande tour qui est dans l'enceinte de l'ancien évêché.
Tout à fait.
On est d'accord. Et puis dans la montée, la rue Baudrière, je crois.
C'est ça. Et puis dans le château aussi, il y a des éléments. Et puis on a la chance de rentrer dans les caves des différentes maisons de la cité, on peut voir différentes parties qui sont conservées dans les caves des maisons.
Donc on a son tracé au centimètre près, si je puis dire, sur toute sa longueur.
Alors il y a quelques manques, notamment du côté de la Maine. Là, il y a des parties qui ont définitivement disparu. Mais sinon, sur les trois quarts, on a une idée assez précise.
Du côté de la Maine, ça veut dire on était au niveau des berges. Ou plutôt sur
non,
le rocher ?
On était sur le rocher, mais il y a une partie du rocher qui a disparu. Le front a légèrement reculé par endroits, ce qui fait qu'on a perdu ce qui
D'accord,
était construit
ouais.
dessus, en fait.
Dans la cour du château aussi, on a fait quelques belles découvertes, je crois. On n'imaginait pas que derrière cette forteresse, il y avait également des vestiges gallo-romains.
Ah, complètement. En fait, le château, il vient complètement se poser sur un quartier antique. Et donc, on a trouvé des niveaux d'habitation, une terrasse monumentale qui devait supporter un temple. Et peut-être, alors, dans les dernières opérations archéologiques, il y a des traces qui ont amené l'archéologue à proposer de restituer du côté du bout du monde peut-être le forum de la ville antique. Mais là, c'est un débat qui est encore en cours entre archéologues.
Alors, il y a ce fameux temple de Mitra. Ça, c'est rue Marceau. Entre l'église Saint-Lô et la gare, il a été découvert il y a 10-15 d'années, c'est une des perles de l'Anjou.
Oui, donc là c'était en 2010, donc avant il y avait l'ancienne clinique Saint-Louis, et donc en 2010 elle a été détruite, et en amont de l'aménagement a été tout un ensemble archéologique très très riche, mais dont cet exceptionnel temple de Mitra, qui était dans un état de conservation très très intéressant, et surtout qui a livré des collections de mobilier archéologique liées au culte de Mitra, mais exceptionnel au niveau européen cette fois-ci.
Et je peux dire que si vous voulez en savoir plus, je vous invite à assister à la conférence qui sera consacrée à ce sujet. Elle aura lieu le 22 février 18h et elle sera bien sûr présentée par Jean Brodeur qui a dirigé, je crois, le chantier de fouilles. Tout le monde à Angers, bien sûr, connaît la rue des Arènes. Tout le monde ne connaît pas grand-chose de l'amphithéâtre. Est-ce qu'on en saura peut-être un jour davantage ? Pour l'instant, c'est assez mystérieux.
Alors en fait, le problème de cette... Donc c'était un édifice de spectacle assez énorme qui faisait plus de 100 mètres de diamètre. Le problème, c'est qu'il a été entièrement, enfin en grande partie détruit lorsque la rue des Arènes a été percée vers 1860. Donc aujourd'hui, on ne peut en apercevoir que des petits morceaux à l'occasion de travaux dans les maisons, dans les caves ou dans les arrières-cours. Mais malheureusement, ce sera difficile d'en voir beaucoup plus maintenant.
Bon. Et y a-t-il des sites sur lesquels vous travaillez actuellement? Site Gallo-Romain, j'entends, toujours dans le cadre de cette exposition aux archives départementales.
Alors, il y a plusieurs projets en cours, mais notamment un, par exemple, qui porte sur l'enceinte. Il y a un projet collectif de recherche qui fédère tout un groupe d'archéologues pour essayer de mieux connaître l'enceinte donc, du Bas-Empire de la ville d'Angers.
Donc l'histoire ne cesse de s'écrire au fil des décennies.
Encore énormément de travail.
Bon. Y a-t-il un endroit dont vous rêvez tous les matins parce qu'il serait un chantier archéologique qui permettrait d'apporter... Des connaissances dont un bon archéologue peut rêver tout au long de sa vie professionnelle?
Écoutez, moi je suis plutôt médiéviste et pas antiquisant, mais si, je pense que si j'étais antiquisant, j'adorerais fouiller le site des Châteliers, parce qu'en fait il est sous les champs aujourd'hui, il n'a pas été abîmé par l'urbanisation, il est vraiment resté, donc il y a à mon avis énormément de choses à découvrir sur ce site très prometteur.
Donc on revient à nos premiers propos, merci beaucoup.
Emmanuel Litou, merci. Je le répète, il s'agissait de l'exposition « Sur les traces de l'Anjou antique » aux archives départementales jusqu'au 11 mars prochain et l'entrée est gratuite. On est sur Radio Campus et du blues maintenant avec Sarah McCoy et son morceau « New Orleans ». Elle s'est produite au Théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy le 14 décembre dernier.
The blackbird that lights her silhouetted on wires. It was the old window fan catching rusty twirls like a cheese puff in the rain. No, I didn't stand a chance. I was a laid out piece of street debris, dancing down Decatur Street. What was this? What did I find? Rolling on this New Orleans tide. When I went down to the riverside. Down to the riverside, the riverside. It was the breath of sweet olive trees.
Tournez la page avec Isabelle.
Littérature maintenant. Isabelle, vous allez nous parler aujourd'hui d'un livre bien singulier.
Oui Marie, et on part à l'étranger. On fait aussi un retour dans le passé et dans le milieu du cinéma. Il s'agit du dernier roman de Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, publié chez Gallimard. C'est un roman foisonnant, à la fois grave et plein d'humour. Jonathan Coe nous emmène, après un détour par Hollywood, sur le tournage en Grèce en 1977 de Fedora, l'avant-dernier film de Billy Wilder. Il est l'une des figures les plus importantes du cinéma américain du XXe siècle, à son actif notamment La Scandaleuse de Berlin avec Marlène Dietrich, Sunset Boulevard, 7 ans de réflexion et Certain Lame Show avec Marilyn Monroe.
Alors qu'est-ce que Jonathan Coe veut nous faire ressentir?
Alors en nous racontant les dernières années de la carrière de Billy Wilder, il nous offre une histoire vraiment entraînante sur la célébrité, le temps qui passe et le poids du passé. Des thèmes qui vont apparaître en filigrane tout au long de ce roman. On passe sans cesse du rire aux larmes, on est saisi par une grande émotion et on est subjugué par son art du rebondissement.
Le sujet de son roman, c'est quoi?
Eh bien voilà, pendant l'été 1977, la jeune Calista quitte sa Grèce natale pour découvrir le monde. Elle traverse les États-Unis et rejoint Los Angeles, où elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle se retrouve par hasard à la table de Billy Wilder, célèbre cinéaste hollywoodien dont elle ne connaît rien. Elle devient son interprète sur le tournage de son avant-dernier film, Fedora, qui se déroule sur une île grecque.
Alors ce livre, il raconte aussi un triple chant du cygne.
Ben oui, Marie. D'abord celui de Calista, 50 ans, devenue compositrice de films. Sa carrière s'essouffle et elle voit partir ses deux filles. C'est ensuite le chant du cygne de Billy Wilder qui vit ce tournage de Fedora comme son crépuscule. Il est conscient que sa gloire commence à se faner et il se voit remplacé par une nouvelle génération, celle qu'on connaît bien, les Spielberg et le succès des Dents de la Mer, mais aussi de Scorsese, Lucas et de Palma. Et il doit trouver le moyen de s'adapter. Et malheureusement, Fedora en sera une tentative infructueuse. Et enfin, dernier chant du cygne, c'est aussi la fin d'un certain cinéma d'auteur, celui de Wilder et de Lubitsch, qui est à la fois bouleversant et léger. C'est l'esprit de la Mitteleuropa qui disparaît, la culture d'Europe centrale.
Alors, est-ce qu'écrit Jonathan Coe sur Billy Wilder est vrai ?
Oui, tout est vrai. Jonathan Coe est un vrai cinéphile, admirateur de Billy Wilder. Son livre est très bien documenté et fourmi d'anecdotes. Il fait aussi preuve d'un grand sens de l'humour.
Alors, est-ce qu'il y a un moment qui, émotionnellement fort, a retenu votre attention ?
Oui, et c'est pas n'importe quoi, je vous raconte. Ça se passe à Munich lors d'un retour en arrière saisissant et c'est écrit sous la forme d'un scénario. Billy Wilder nous livre ici sa vérité intime. À la fin de la guerre, il relate le montage d'un documentaire sur les camps nazis. Il a été parmi les premiers à découvrir les images tournées par les Alliés dans des lieux où a péri sa mère, sans qu'il sache ni où, ni quand. Et à un jeune homme qui doute de l'extermination des Juifs, il répond « Si les camps de concentration n'ont pas existé, dites-moi où est ma mère ?» Donc ça, c'est très fort. Ouais. Et face au malheur et à la culpabilité de n'avoir pas pu sauver sa famille, Billy Wilder se réfugie dans la légèreté, le bon mot. Il camoufle sa sensibilité pour ne pas être blessé et réalise des comédies sans doute pour échapper à cette tragédie. Je voulais finir cette chronique avec ce trait d'esprit propre à Billy Wilder à propos des Juifs déportés d'Europe. Il a dit, écoutez bien, « Les pessimistes ont fini à Beverly Hills, les optimistes ont terminé à Auschwitz. » À méditer. Donc je rappelle, Jonathan Coe, Billy Wilder et moi, publié chez Gallimard.
Merci Isabelle pour cette présentation de ce roman qui est sorti en avril de cette année. Il a tout de suite eu un excellent accueil de la critique et des lecteurs, et vous le confirmez.
Certainement.
Musique maintenant avec Oshi.
Depuis ses lèvres contre les tiennes, j'ai comme un poison dans les veines. Y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seul avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine. Mon amour, tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne. Je voudrais oublier. Je me sens conne. J'aurais pas pensé. J'abandonne. Je mets tout de côté. Tu m'étonnes. Que l'amour fait crever. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je me sens si seule. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier. Je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. Les couleurs, j'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur, toutes les variantes du désespoir.
Mmh.
Le billet d'humeur de Bénédicte.
À vous, Bénédicte.
Âme sensible, surtout, ne fuyez pas. Si vous êtes facilement choqué, si vous êtes une personne qui n'aime pas entendre des grossièretés, écoutez bien cette chronique, elle est pour vous. Nous allons parler gros mots, trésor de la langue française. C'est quoi les gros mots? Eh bien, c'est simple, ce sont tous les mots que les enfants bien élevés ne doivent pas dire.
Alors, à partir de quand peut-on s'estimer bilingue?
Alors, quand on manie les mots d'une langue avec souplesse, les mots littéraires, les mots du quotidien aussi évidemment, mais on oublie souvent cette autre catégorie tout aussi nécessaire à notre expression verbale ou physique, l'argot et les gros mots. Ouvrez vos oreilles autour de vous, quel que soit le contexte, pas une journée sans qu'on les entende fuser par-ci, par-là. Utiliser les gros mots, c'est un signe que l'on a vraiment intégré la langue dans toutes ses dimensions. Mince, flûte, purée, putain, fais chier, j'ai une chronique à faire pour jeudi, je suis dans la merde. J'ai osé sur Radio Campus. Je suis couillue, hein, Marie. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à l'écrire, cette chronique. Bon, les gros mots, on le chic lorsqu'on les prononce, de produire à chaque fois leur petit effet. Et là, tout de suite, moi, je me sens plus puissante, plus effrontée, presque exaltée. Les mots grossiers nous égosillent parce qu'ils ont l'art de nous dépouiller de nos identités sociales. Pourquoi se priver d'une telle force expressive de conviction, de répartie? Qualité que l'on peut d'ailleurs attribuer à notre président Sarkozy avec son « casse-toi, pauvre con » au Salon de l'agriculture, vous vous souvenez?
Ouais, alors, quel est le gros mot le plus utilisé?
Grand favori de la langue française, vous devinez, c'est lequel?
Bah merde.
Bah merde, bah voilà, on l'utilise à l'infini parce qu'il a plusieurs sens. Positif, quand on balance un « merde » à quelqu'un avant un devoir sur table. Et vous savez pourquoi, Marie? En fait, on utilisait ce fameux « merde » au siècle passé lorsqu'une pièce de théâtre avait du succès, les attelages stationnant derrière le théâtre, laissait une quantité de crottin importante. Alors, souhaiter beaucoup de merde revenait donc à souhaiter du succès à la représentation. Est-ce que vous connaissez la différence entre un mot grossier, un juron et une insulte?
Ben non.
Eh bien, le mot merde peut avoir les trois fonctions et c'est pour ça qu'on l'utilise autant. Alors, un mot grossier, c'est un terme qui transgresse les tabous de la langue, comme la religion ou le sexuel, par exemple. Le juron est un mot que l'on s'adresse à soi-même. Lorsqu'on casse quelque chose, on crie « merde !» et tout de suite, ça soulage. Pourquoi? Parce que dans ce cri, on exprime tout autant la souffrance ou le mal que l'émotion. Donc jurer, ça fait du bien. L'insulte, elle est adressée à quelqu'un. Elle blesse l'autre par une forme d'attaque. Quel mépris chez Napoléon quand il s'adresse à son ministre Talleyrand. « Vous êtes un voleur, un lâche, un homme sans foi. Tenez, monsieur, vous n'êtes que de la merde dans un bas de soie. » C'est élégant.
Alors, insulter sans employer de mots grossiers, c'est possible. Avec élégance, cornichon, freluquet, mérinos mal peigné, crétin des Alpes, le gros mot est transgressif, mais pas nécessairement violent.
Exactement, et c'est là que je rends hommage au célèbre capitaine Haddock, tout le monde le connaît, qui a si largement enrichi mon vocabulaire. Il m'a déniaisé, à l'insu de mes grands-parents qui collectionnaient tous les albums de Tintin. Haddock est devenu alors mon passeport pour cette dimension répugnante aux yeux des adultes. Que serait Tintin d'ailleurs sans le langage coloré du capitaine Haddock? Grâce à lui, des mots grossiers me donnaient l'occasion de briller à l'école sans paraître vulgaire pour autant.
Alors, et pour les plus jeunes d'entre nous, voilà, eh bien, c'est vous, quoi leurs gros mots?
Est-ce que vous les trouvez vulgaires, vous?
Bah, pas plus que nous, non.
Voilà, pas exactement. Par contre, ils sont très imagés, très imaginatifs. Ils empruntent à l'anglais, à l'argot des cités, au verlan, aux termes abrégés. Eux, ils innovent, ils raccourcissent, finissent par constituer un vrai, vrai vocabulaire. Leur franc-parler n'a d'égal que leur sens de la révolte et leur envie de bousculer les idées reçues. Mais c'est bien eux qui font évoluer notre langue.
Alors, les mots évoluent, ça c'est un fait, la langue évolue. Mais qu'est-ce qui fait que l'on ne dit plus « diantre »,« saperlipopette », »,« mercredi » en guise de juron?
Les mots grossiers de notre langue, comme tous les mots, ils disparaissent, ils mutent, ils ressuscitent. Mais aujourd'hui, on est quand même très très pauvre en gros mots par rapport au siècle dernier. Est-ce que le français est en danger? Est-ce qu'on peut se poser la question en fait? Mais non, je ne crois pas. Le français est une langue vivante et ça ne servirait à rien de la mettre dans un bocal. Si on arrête de malmener une langue, c'est qu'elle est morte. Dès que mes enfants ont été en âge de comprendre les choses, j'ai institué les déjeuners gros mots, sorte de joute familiale où chacun balançait son répertoire ordurier. Vous avez jamais fait ça, vous?
Non, jamais. Eh bien, j'aurais dû.
Oui, peut-être. Prendre le temps d'expliquer pourquoi on emploie un mot plutôt qu'un autre, eh bien, ça s'est avéré très, très efficace pour l'auto-censure. Les bienfaits d'une telle pratique, même si en tant que parent on a souvent les oreilles qui sifflent, c'est de freiner leurs ardeurs à utiliser ces jurons sans limite. Et puis aujourd'hui, si vous en avez marre des classiques insultes françaises, envie d'insultes originales pour cette nouvelle année, eh bien piochez donc dans le grand livre des gros mots de Jean-Michel Jacobovitch, ou bien le dictionnaire d'argot chez Larousse, ou encore le Dico des ados par Stéphane Ribeiro.
Bon, merci beaucoup Bénédicte, on a appris des choses. Alors, ce n'est pas un gros mot cette fois. Cécile est allée à la Collégiale Saint-Martin et elle nous parle des Urban Sketchers.
La palette de couleurs.
Oui, je vous parle aujourd'hui d'une très belle découverte faite totalement par hasard un samedi après-midi dans la Collégiale Saint-Martin à Angers. Je rentre, ambiance studieuse et surprenante. Je m'avance, 10, 20, non, 30, voire 60 personnes, disséminées partout, devant les statues, les œuvres d'art, les vitraux, des silhouettes courbées sur des carnets de croquis, qui un crayon, qui un pastel ou un pinceau à la main. Silence et concentration. Les visages montent et descendent au rythme de l'observation. Je me demande ce qui se passe, renseignement pris. On me dit que c'est Urban Sketchers ou USK, des dessinateurs urbains qui se retrouvent en fait tous les mois. Vanessa Bataille et Raphaël Guéry, les organisateurs angevins, nous expliquent le principe.
Urban Sketchers, c'est un mouvement plutôt qu'une association. Un mouvement de dessinateurs urbains qui croquent sur le vif, sur le terrain, ce qu'ils ont sous les yeux. Pas d'après photo ni d'après imagination.
Est-ce qu'il faut savoir dessiner? Est-ce qu'il faut avoir du talent? Est-ce qu'il faut juste être curieux?
Curieux, c'est le mot que vous avez utilisé, qui est pour moi qui est vraiment le moteur de ce groupe-là. Faut avoir envie. Moi, quand je suis arrivé dans ce groupe-là, je ne savais pas forcément bien dessiner. J'avais un peu peur aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de jugement. On accepte vraiment tous les amateurs, les débutants, ceux qui dessinent depuis plus longtemps. Tout le monde est mélangé et c'est ce qui fait avancer le groupe en s'aidant les uns les autres.
C'est donc l'envie de dessiner la ville, sa ville, et de se retrouver pour travailler ensemble qui réunit ce groupe très régulièrement. Ce mouvement, Urban Sketchers, est né aux États-Unis en 2007 et il s'est répandu, mais comme une traînée de poudre, dans le monde entier très rapidement. À Angers, il est actif à peu près depuis 2013-2014 et il compte quand même aujourd'hui plus de 150 membres. Le principe, chaque deuxième samedi du mois, un rendez-vous vous est donné sur un marché, sur une place ou dans un musée. Cela dépend de la météo, évidemment. Mais les possibilités et les sujets sont absolument infinis. Ensuite, les œuvres sont partagées, ou pas, parce que vous faites ce que vous voulez, sur les réseaux sociaux. Puisque vous l'avez compris, il n'est pas nécessaire d'être un as du dessin et que le groupe est vraiment très ouvert et très accueillant, pour vous convaincre de prendre vos plus beaux crayons et de rejoindre le groupe, j'ai demandé à Vanessa et Raphaël une bonne raison de venir.
Un bon moment à passer, à dessiner, à apprendre à observer, à regarder, à être attentif à son environnement. Avant même de poser un coup de crayon, c'est l'œil qui dessine en fait. Il n'y a pas de jugement entre nous en fait. Vraiment, tous les niveaux sont les bienvenus.
C'est aussi reposant, se poser aussi dans un lieu calme. Être dans sa bulle aussi, c'est un moment agréable à vivre.
Un moment agréable à vivre, donc, une façon aussi de redécouvrir sa ville et de la regarder. Alors rendez-vous sur la page Facebook Urban Sketchers Angers. Donc ça s'écrit Urbanskechers Angers. Ou alors vous envoyez un mail à urbansketchersangers@gmail.com. Vous serez donc informé, toujours dans la semaine qui précède, du lieu et de l'heure de rendez-vous, avec vos crayons, bien sûr.
C'était Cécile, merci à elle. On était sur France Culture, sur Radio Campus. 30 minutes de culture, tous azimuts, en Anjou. Retrouvez-nous pour la rediffusion le mardi à 19h. Et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager le podcast et nous liker sur les réseaux sociaux.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.